France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les musées, les salles de cinéma et de théâtre ne rouvriront pas avant la fin du mois de janvier, au moins. Pour les bars et les restaurants, il faudra attendre à minima la mi-février. Voici les premières annonces de Jean Castex hier lors d'une conférence de presse. Pas de réouverture non plus pour les remontées mécaniques dans les stations de ski. Le couvre-feu nocturne à 20h va par ailleurs durer. Il est prolongé jusqu'au 20 janvier. Dans 15 départements de l'Est, c'est toujours 18h pour ce couvre-feu. Un horaire qui pourrait concerner 10 nouveaux départements, précision à venir aujourd'hui, car les chiffres concernant l'épidémie de Covid-19 ne sont pas bons en France. Encore 22 000 contaminations recensées hier et 277 décès de plus en 24 heures. Pour tenter de stopper cette pandémie, la vaccination doit s'accélérer, promesse encore du gouvernement. À partir du 18 janvier, dans 10 jours, les plus de 75 ans pourront se faire vacciner, au même titre que les personnes en EHPAD ou le personnel soignant de plus 50 ans. Comme au Royaume-Uni, l'exécutif français décide même de retarder jusqu'à 6 semaines la deuxième injection du vaccin Pfizer. Cela permettra normalement de vacciner deux fois plus de personnes. Par ailleurs, sachez que dès lundi, 300 centres de vaccination devraient être opérationnels sur le territoire. Ils seront plus de 600 à la fin du mois. Enfin, notons que les arrêts de travail pour cause de Covid vont être simplifiés. Pas de jours de carence et une inscription directement sur le site de l'assurance maladie. Protocole mis en place ce dimanche, nous y revenons dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure aussi, Boeing qui accepte de payer 2,5 milliards de dollars pour solder ses poursuites judiciaires. L'avionneur américain est accusé de complot en vue de commettre une fraude. Vous comprendrez mieux avec le journal de 6h30. Et puis le jour d'après, aux États-Unis, deux ministres de Donald Trump démissionnent après les violences du Capitole de la part de certains partisans du président. Donald Trump qui a pris la parole hier soir, il dit souhaiter une transition du pouvoir sans accroc le 20 janvier prochain.
Le mandat de Donald Trump s'achève dans la violence et le déni.
Sur France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Dans 11 jours, Joe Biden entrera en fonction avec une majorité parlementaire conquise de justesse. Peut-il réparer les fractures d'une démocratie affaiblie ? Quel agenda pour la nouvelle administration ? Comment le Parti républicain va-t-il s'accommoder du Trumpisme ? Quel impact sur l'image et l'influence des États-Unis dans le monde ?
Affaires étrangères, ce samedi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans ? Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2021 en téléchargeant le dossier d'inscription sur maisondelaradio.fr, rubrique Recrutement des formations musicales.
Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant. Et ce matin, grâce à Bruno David, vous saurez tout sur les poumons du polyptère.
Juillet 1798, la bataille des pyramides fait rage, Bonaparte en sort vainqueur et cet épisode contribuera à sa gloire, même si la campagne d'Égypte s'achèvera par un désastre militaire. Plus que le désastre militaire, l'expédition d'Égypte a été une réussite scientifique éblouissante. Bonaparte, qui était alors général, était conscient de l'importance des sciences et d'un besoin de connaissances rationnelles du monde. Lors de l'expédition d'Égypte, 167 savants et artistes embarquent, dont Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, jeune professeur du nouveau muséum d'histoire naturelle. Une fois sur place, Saint-Hilaire fait l'inventaire des poissons du Nil. En 1802, il ramène en France un poisson qui va s'avérer l'une des plus grandes curiosités de la zoologie de l'époque. Il écrira « Je n'aurais découvert en Égypte que cette seule espèce qu'elle me dédommagerait des peines qu'un voyage de long cours entraîne ordinairement, car je ne connais pas d'animal plus singulier, plus digne de l'attention des naturalistes. » Mais qui se cache derrière ces lignes ? Un poisson africain allongé, aux écailles épaisses et dont l'anatomie est étrange. Le naturaliste Lacépède le nommera Polypterus bichir. Ce nom de genre fait référence à la succession de petites nageoires que les polyptères portent sur leur dos comme des petits drapeaux. ses écailles épaisses, l'anatomie de ses nageoires et de son crâne, et surtout ses poumons, en font un monstre zoologique. Pourquoi ? À l'école, on apprend que les poissons ont des branchies et que les tétrapodes, animaux à quatre pattes, ont des poumons. On nous enseigne que ces tétrapodes descendent des poissons. Nous regardons alors les carpes et les truites comme des vertébrés quelque peu primitifs. C'est vrai, quoi ? Les amphibiens comme les grenouilles n'ont-ils pas des têtards qui témoignent de cette transition entre la vie dans l'eau et la vie terrestre ? Ces têtards ne sont-ils pas munis de branchies qu'ils perdent à la métamorphose pour laisser l'adulte respirer avec ses poumons sur la terre ferme ? Le polyptère vient contredire cette belle histoire. En effet, il est bien un poisson, mais possède à la fois des branchies et des poumons. Premier réflexe. On se dit qu'il est une exception, car il vit dans des marécages pauvres en oxygène, où ses branchies ne suffisent pas, et où il doit aussi respirer de l'air en surface sous peine d'étouffer. Pas du tout. Car il appartient à une lignée qui s'enracine très profondément dans l'histoire des poissons, il y a 360 millions d'années. Moralité. Au début de leur histoire, les poissons avaient tous des poumons et des branchies. Chez l'ancêtre des poissons modernes, et quelques autres, le poumon s'est perdu, au profit d'un organe de flottaison, la vessie natatoire. En résumé, ce ne sont pas les tétrapodes qui ont troqué leurs branchies pour des poumons, ce sont nos poissons qui, dans un lointain passé, ont perdu les poumons pour ne garder que les branchies. Sauf le polyptère, un poisson qui ne manque pas d'air.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, Les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Nicolas Pétribot, mon invité du jour, est l'auteur de la série de bande dessinée « Il faut flinguer Ramirez », édité chez Glénat. Le premier tome sorti il y a 2 ans avait rencontré un succès aussi foudroyant qu'inattendu, près de 100 000 albums vendus. Et le second tome est sorti pour les fêtes, juste à temps pour décorer le sapin de Noël. La bande dessinée « Il faut flinguer Ramirez » rend hommage au cinéma de genre, avec des grosses poursuites, des voyous méchants, des femmes fatales, cinéma de genre révisité à la manière de Tarantino, même si notre auteur sait se démarquer des références cinématographiques quand il le faut. Avant de se lancer dans la bande dessinée, Nicolas Pétrimot a travaillé dans l'audiovisuel, dans la post-production, dans les effets spéciaux et aussi pour l'industrie du jeu vidéo.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Nicolas Pétrimot, comment ça va ? C'est la question C'est la question qu'on va poser ce week-end à tous les artistes pour voir comment ils ont vécu cette année après 9 mois de crise avec déconfinement, reconfinement, interdiction de rencontrer du monde. Bien sûr, on s'imagine qu'un auteur de bande dessinée comme vous n'a pas dû souffrir trop de cette situation, à moins que je me trompe, puisqu'on imagine les dessinateurs de bande dessinée confinés depuis toujours, seuls, en train de dessiner.
Ah, c'est ça, c'est un travail très solitaire. Et je dois dire que ouais, le confinement, moi j'ai pas vraiment vu la différence avec mon quotidien, si ce n'est qu'effectivement fallait remplir un papier pour sortir de chez soi. Moi, ça tombait vraiment en plus dans une période où il fallait que je me concentre absolument pour finir les pages et préparer la sortie de l'album correctement. Donc j'ai un peu plus vu la différence sur le reconfinement, où là, du coup, j'avais terminé mon album et ma récompense, ça a été d'être très malade. Et de
ne pas rencontrer votre public.
Ouais, après ça, je vous avoue que j'étais quand même très, très fatigué par la réalisation de l'album et on avait prévu avec l'éditeur que la rencontre se ferait plus tard de toute façon.
Et vos amis, ceux qui ont travaillé avec vous quand vous étiez dans l'industrie du jeu vidéo, ceux qui travaillent dans l'audiovisuel, puisque vous êtes aussi passé par l'audiovisuel avant de tout laisser tomber pour la bande dessinée, Nicolas Pétrimot, ils en sont où aujourd'hui ?
Soit ils ont continué leur carrière. Après c'est aussi agréable des fois d'avoir des repères un peu fixes. Enfin moi je sais que par exemple notamment dans le jeu vidéo il y a des gens qui sont toujours en place dans les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé. C'est plutôt agréable aussi de se donner des nouvelles comme ça. Mais bon, moi, j'ai toujours été un petit peu électron libre dans ma façon de dans les projets que j'ai abordés. Mais j'ai quand même gardé tous ces contacts autour de moi.
Il faut flinguer Ramirez, c'est le titre donc de cette bande dessinée, cette série de bandes dessinées, puisque là c'est le tome 2 qui est sorti. Dès le premier tome sorti il y a 2 ans, vous avez rencontré un succès populaire. Quel est votre parcours, Nicolas Pétrimot ? Pourquoi vous avez laissé tomber une industrie aussi florissante que celle du jeu vidéo, ou même les effets spéciaux pour les films, pour les productions audiovisuelles, ou même pour les publicités, pour vous lancer dans la bande dessinée ?
Ben, je crois que c'était tout simplement mes premières envies d'ado, je dirais. Ça remonte à l'adolescence, en fait. Quand je découvrais les mangas et tout ça, je m'étais dit que ce métier devait être absolument, ça devait être le meilleur métier, quoi, de pouvoir passer son temps à dessiner ou à raconter ses histoires. Et puis j'ai fait mes études d'art appliqué pour me diriger vers ça. J'ai fait beaucoup de dossiers, j'ai développé beaucoup de dossiers d'histoires différentes avec des collaborateurs différents. Et ça n'a jamais abouti. Comme c'était la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. J'ai pris cette décision de pas m'obstiner, en fait, et d'expérimenter d'autres choses sur d'autres terrains. Donc voilà, on les a cités, la post-production, le jeu vidéo, l'édition, mais plutôt d'un point de vue coulisse, c'est-à-dire d'un point de vue éditeur. Enfin voilà, et de toute façon tous ces métiers-là m'intéressaient, donc je m'y suis confronté. Et puis au bout d'un certain temps d'expérience dans ces domaines-là, je me suis rappelé que mon envie de vouloir raconter mes propres histoires, donc je me suis lancé avec ce projet-là.
Et la complainte de vos collègues de la bande dessinée, c'est-à-dire très précaire, de plus en plus précaire, ne vous a pas fait peur, a priori, de vous lancer, de laisser tomber le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, pour le papier et le crayon, la bande dessinée, les comics?
En soi, c'est assez similaire, moi, dans mon quotidien. De toute façon, dans ma manière de gagner de l'argent ou de facturer, je passe par les mêmes canaux, les mêmes organismes, en fait. Donc, en restant dans le jeu vidéo, j'aurais eu les mêmes soucis que rencontrent les auteurs de bande dessinée avec leur retraite, etc. Parce que moi, j'ai toujours travaillé en tant qu'indépendant et non en tant que salarié.
Et pourquoi ce choix ?
Justement, pour être libre. De travailler sur des productions que j'aimais. Quand on est salarié, on ne peut travailler que sur les productions d'une société ou d'un studio. Quand on est indépendant, on peut travailler sur plusieurs jeux, par exemple.
La différence fondamentale entre ce que vous avez fait pour l'audiovisuel ou pour le jeu vidéo et la bande dessinée, c'est que là, vous êtes au service de votre propre histoire, d'une histoire que vous avez imaginée vous-même.
Ouais, c'est ça. Et puis du coup, toutes les choses que j'ai appris au travers de ces différents métiers auxquels je me suis confronté, m'ont vraiment servi pour ce projet-là. En fait, j'ai tout mis au service à la fois, que ce soit du graphisme, de la vidéo, des petits montages, de la narration, de la mise en scène, tout ça. En fait, tout est mélangé. Et du coup, je regrette pas d'avoir fait ce choix de pas attaquer tout de suite par de la bande dessinée. J'ai appris plein d'autres choses qui m'ont passionné et qui m'ont servi ensuite.
Il faut flinguer Ramirez. Donc l'histoire se passe aux États-Unis, à Falcon City, en Arizona, dans les années 80, avec beaucoup d'action, de poursuites, et un héros qui ressemble pas du tout à un héros, Jacques Ramirez, employé sourd-muet qui vend des aspirateurs. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'originalité de la couverture du tome 2, de l'acte 2. Comme vous dites, c'est que tout le monde est armé, hein, les femmes, les hommes, sauf lui, Ramirez, au milieu, qui lui tient son aspirateur comme on tiendrait une guitare.
Ouais, c'est ça. Alors là, vous parlez de la couverture du tome 2, effectivement, mais lui, il fait, lui, il a un destin qui était un peu tout tracé, celui d'une lignée. Donc ça, on le comprend au début de ce deuxième acte, mais il a décidé que il en ferait autrement. Et puis on le retrouve, ce qui a l'air d'être un job de couverture. Quand on est un gangster, c'est d'être dans un petit bureau, un peu personne va nous remarquer. C'est un personnage très très, il est muet Mais il est très, il a plein de surprises à révéler.
Il n'a pas besoin d'armes, un tournevis et une pince lui suffisent pour faire des miracles. Mais alors, cet employé modèle est peut-être un tueur qui met le cartel de la drogue, qui sont les autres méchants de cette bande dessinée, dans tous leurs états, d'où les courses-poursuites.
C'est ça. Bah, c'était moi le point de départ a été de vouloir faire de créer quelque chose très référencé et qui rappelait un peu l'énergie qui se dégageait des films d'action qui sont aujourd'hui cultes, devenus cultes du cinéma voilà des années 80-90. Je cite souvent le Flic de Beverly Hills ou L'Arme fatale le Piège de cristal qui sont vraiment des monuments dans le registre action. Donc voilà, moi je voulais recréer quelque chose dans cet univers-là parce que moi ça m'a énormément marqué. C'était vraiment un très très bon divertissement que j'ai vu, revu.
Et leur rendre hommage à la manière de Tarantino. Je sais que cette question est récurrente. À chaque fois qu'on vous parle de Ramirez, on vous sort effectivement Tarantino. Mais cette comparaison, elle est pertinente parce que votre manière de revisiter ce cinéma de genre s'accompagne d'une certaine distanciation aussi. On est dans l'hommage, mais on est aussi décalé.
Bah tout à fait, il y avait un décalage et ça c'était aussi on va dire une envie très très forte, c'était de pas faire un récit premier degré parce que ça c'est bon, on a l'habitude d'en voir et souvent quand c'est un peu trop premier degré et trop musclé moi j'ai un peu le sentiment que c'est raté ou qu'on tape à côté. Et puis bon, faut aussi remettre que c'est un divertissement et du coup moi l'humour, le côté décalé, c'était ma petite soupape pour que le lecteur comprenne bien que c'est un divertissement, c'est pas non plus pour trop se prendre la tête, quoi, c'est pour passer un bon moment. Et puis quand on referme le bouquin, on peut reprendre sa vie normale, quoi.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Avec Nicolas Pétribot ce matin pour Il faut flinguer Ramirez, déjà l'acte 2. Jacques Ramirez, donc le meilleur réparateur d'aspirateurs dans une entreprise très respectable de Falcon City en Arizona, dans les années 80. Il est l'employé modèle, même s'il est muet, mais peut-être que derrière cet employé modèle se cache un redoutable assassin. En tout cas, il y a le cartel mexicain qui est à ses trousses et le voilà embarqué avec deux femmes fatales, très, très armées, pour nous entraîner dans une drôle d'aventure où on est tout à la fois effectivement subjugué par ce personnage. Le héros est un anti-héros à part entière. On a vraiment l'impression que cette bande dessinée, qui a eu un succès populaire pour le tome 1, remet en question la définition d'un héros populaire. C'est quoi un héros populaire? Vous lui avez enlevé tout. Il ne sait pas utiliser les armes. Enfin, a priori, il ne sait pas utiliser les armes. Il est plutôt effacé, ce Ramirez.
Ben en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, c'est de casser l'image du héros qui est super fort et qui a plein d'armes sur lui. Je voulais aussi faire un récit d'action où il se passe ça. Mais je voulais pas que mon héros véhicule ça. Je voulais qu'il soit en dehors de ça. Et quelque part, moi, j'en ai fait un héros de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il est adoré par tous ses collègues parce qu'il répare. Le mec, il est super calme, il fait pas de bruit et il fait son boulot mieux que personne. Et puis dans sa vie perso, il est tout ce qu'il entreprend, il est number one. C'est une réplique de l'album. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc quelque part, c'est une certaine forme de une personne comme ça, on aime bien, c'est très inspirant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage.
Physiquement, il ressemble beaucoup plus à Groucho Marx qu'à Leonardo DiCaprio, par exemple.
C'est clair, mais justement, encore une fois, c'était pour casser le côté « belle gueule », entre guillemets, systématique des personnages principaux de ce genre de film. Moi, je voulais qu'il ait une petite tête amusante, quelqu'un qu'on peut que aimer, à qui lui arrivent les pires trucs pendant un week-end. Il avait prévu de faire un truc justement pendant son week-end, mais là, il y a tous les ennuis qui lui tombent dessus.
Alors, si on parle maintenant de la mise en scène de cette bande dessinée, hein, parce que votre séquençage est complètement original, la manière d'orchestrer les scènes font appel aussi bien au code du comics américain que du manga japonais. Vous vous êtes amusé en essayant plein de choses en réalité.
Je ne sais pas si c'est vraiment que j'ai essayé. Moi, je pense que j'ai beaucoup lu, des mangas quand j'étais ado. Ensuite, j'ai découvert la BD franco-belge et puis très tardivement, je me suis intéressé aux comics, mais plutôt sur le pan comics indépendant, les histoires originales et pas vraiment tout ce qui était super-héros, etc. Et du coup, j'ai découvert à trois temporalités différentes ces univers-là. Mais toujours le lien, et ce qui a fait aussi mon métier pendant plus de 10 ans, c'était le storyboard. Storyboard pour le cinéma, la publicité, etc. Donc les codes restent les mêmes. Et quand j'ai développé ce projet de bande dessinée, je me suis tout de suite mis d'accord avec l'éditeur que ma pagination allait être élevée parce que j'avais besoin de place pour à des moments faire des grandes doubles pages ou faire très peu de plans par page. Et puis à d'autres moments être un peu plus dense, voilà.
Donc
voilà.
Mais tout ça d'une manière très éclatée, hein. Il y a du dessin dans le dessin, il y a des cases dans des planches, tout ça se perd, ça épouse la vitesse aussi de l'action que mène le héros et les personnages d'Il faut flinguer Ramirez.
Bah c'est ça. Et puis pour ce qui est de la temporalité de l'histoire, ça se passe sur 2-3 jours. Il y a 3 volumes qui sont prévus, donc 2 sorties. Ça se passe sur 3 jours. Dans la mise en scène, c'est entrecoupé de flashbacks qui expliquent certaines choses aussi. Mais finalement, c'est assez court. Par exemple, le tome 2 se focalise que sur un moment d'une journée, je dirais une dizaine d'heures. Le tome 2, c'est la durée qui se passe dans le temps, dans l'histoire. Et du coup, j'avais besoin de faire des pauses, j'avais besoin de faire des moments silencieux, des moments très bavards. Et je pense que j'ai un peu emprunté plein de codes au franco-belge, au manga et aux comics. Et à la fin, je réfléchissais plus, en fait. Pour moi, ça devenait naturel. Je dessinais un peu les planches de manière très succincte, un peu comme on écrit un texte.
Et on a l'impression qu'Il faut flinguer Ramirez a été d'abord conçu pour le cinéma. Et comme le cinéma est une industrie très très chère, vous avez adapté le scénario à la bande dessinée.
C'est ça. Mais moi, quand j'ai écrit l'histoire, j'avais pas vraiment d'idée de découpage. Je visualisais vraiment quelque chose d'un film de 2 heures. Et du coup, j'ai vraiment écrit l'entièreté du scénario de cette façon-là.
Mais en pensant au cinéma.
Ouais, voilà. Mais sauf que moi j'ai réalisé des petites choses pour moi, mais je prétends pas du tout être un réalisateur professionnel avec tout ce que ça implique d'un point de vue humain, gérer des équipes, gérer des budgets, tout ça c'est des problématiques qui font partie du job de réalisateur. Et sur un projet comme ça assez ambitieux, j'aurais jamais été démarcher des studios pour tout de suite. Enfin, et puis surtout, moi, j'avais pas de nom à ce niveau-là, quoi. J'existais pas vraiment, quoi.
Et pourtant, à la fin de l'aventure, il y a un générique, comme si c'était un film de cinéma, avec tous les gens qui vous ont aidé d'une manière technique. Vous-même, vous avez composé la musique pour faire la promotion de cette bande dessinée, des bandes annonces aussi. Ça a été vraiment... Alors, bien sûr, on comprend cela parce que Il faut flinguer Ramirez est aussi un hommage au cinéma de genre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas chez vous, Nicolas Petrimot, cette envie de partir de la bande dessinée, de prouver par la bande dessinée que vous pouviez faire un grand film d'aventure pour le cinéma?
Encore une fois, je sais pas si je serais capable de faire un film, parce que il y a des problématiques auxquelles j'ai jamais vraiment été confronté et qui parfois dépassent en fait l'aspect humain. Moi, la bande dessinée, c'est quelque chose, voilà, ça je connais les codes, j'ai l'impression de les maîtriser. Et pour moi, c'était plus instantané d'aller vers ce média-là, en fait. Mais c'est compliqué, en fait, d'aller toquer aux portes des studios avec ça sous le bras. Juste le scénario écrit, je suis pas sûr qu'il aurait intéressé. D'ailleurs, quand j'ai présenté le projet, il y a des éditeurs, ça les a pas spécialement branchés, en fait. Mais parce qu'il fallait se projeter un petit peu avec les planches et l'univers, etc. Donc quelque part, il faut apporter des images. Donc voilà. Pour moi, c'était plus immédiat de le faire en bande dessinée et qu'un milieu comme le cinéma où finalement je maîtrise. Là, du coup, peu de choses.
Même si le cinéma vous fait appel?
Ah bah là, c'est différent. Si les gens ont compris que j'avais quelque chose à raconter, un peu sympa, etc. Je suis à l'écoute.
In a motel, two pals are smoking, working on their secret plan. The younger deals with cash, the older holds a gun. They built a bully empire, one based on slinging dope. Those who interfere will end at the end of rope. At killing people, he was the king, a random guy. He is a lion who'll never ever die. They came around to find the silent man. They drove all night to catch and bring him down. Here they come, far from home. They've got to kill the silent man.
L'acte 3, le troisième et dernier tome de Il faut flinguer Ramirez, est déjà prêt ou vous êtes en train de travailler pour qu'il soit prêt aux prochaines fêtes ou à la rentrée, je sais pas.
Non, je pense je vais vraiment prendre le temps pour finir la série très correctement. Là, j'ai vraiment besoin d'un petit peu de temps pour moi là pour les mois qui viennent parce que ça fait vraiment plusieurs années que je sacrifie beaucoup de choses et que je ne fais que travailler là-dessus. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de souffler, de reprendre un peu goût à, enfin de m'intéresser aussi un peu à d'autres choses là. Pour recharger les batteries, puis ensuite je vais attaquer le tome 3.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Il faut flinguer Ramirez, l'acte 2 est sorti, c'est toujours chez Glénat. On se retrouve lundi, bien sûr. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Clara Gallivel. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
200 km de lignes de métro, dont 4 neuves, 68 gares. À l'horizon 2030, le Grand Paris Express devrait faciliter la mobilité en Île-de-France, de banlieue à banlieue et de banlieue vers Paris. Un projet d'urbanisme, mais aussi un projet esthétique. Soft Power, par Frédéric Martel, avec José Manuel Gonzalves, directeur artistique du Grand Paris Express, et Dominique Perrault, architecte, ce dimanche à 18h10 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Amis de la littérature, rejoignez-nous et mettez un tigre dans votre moteur.
Sur France Culture, au cœur du processus d'écriture, Mathias Sénard.
Le magazine du partage de l'expérience de l'écriture. Des autrices et des auteurs y livrent leurs secrets de fabrication. Les clés de leur imaginaire, dans tous les genres et sur tous les tons.
Ce dimanche, dans la salle des machines, les romancières Marine Diaye et Justine Augier. La salle des machines, ce dimanche à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement maintient toutes les restrictions sanitaires et accélère la vaccination. Objectif 1 million de personnes vaccinées pour la fin janvier. Jusque-là, les retards s'expliquent, c'est ce qu'a dit hier soir le Premier ministre, verbatim à suivre. Nous interrogerons ensuite une représentante du personnel pour la fonction publique, alors que les arrêts de travail à cause du Covid-19 seront simplifiés en fin de semaine. Boeing doit payer 2,5 milliards de dollars à l'État américain, accusé de fraude. L'avionneur évite ainsi les poursuites. Et puis au Liban, une statue du général Soleimani crée la polémique. C'est ce que nous dira notre correspondant à Beyrouth dans moins de 10 minutes. Il n'est pas encore question d'assouplir les règles sanitaires en vigueur. Voici le message qu'ont délivré hier soir le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Le couvre-feu à partir de 20h reste donc en vigueur au moins jusqu'au 20 janvier. Couvre-feu avancé à 18h pour 15 départements français et peut-être 10 de plus, on le saura dans la journée. La vaccination quant à elle sera accélérée avec l'entrée dans le dispositif des plus de 75 ans à partir du 18 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours. Pour l'instant, oui, la France est assez lente en matière de vaccination, mais c'est normal. En tout cas, si l'on en croit le Premier ministre Stéphane Robert.
C'est vrai, a reconnu le Premier ministre hier soir que la campagne de vaccination en France a démarré plus lentement que partout ailleurs. Et il s'en est expliqué par le choix qui a été fait de vacciner d'abord les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, les maisons de retraite, et de recueillir le consentement des intéressés.
Ce choix des EHPAD explique très largement le démarrage très progressif des premiers jours. Chacun peut en effet entendre qu'on ne recueille pas le consentement d'une personne de 90 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, comme on le ferait pour un jeune de 20 ans. Nous voulons faire les choses bien, dans le respect de ces personnes, en présence de leur médecin traitant avec l'accord de leur famille.
Pour autant, il avoue avoir entendu les critiques et les attentes.
Oui, en effet, comme l'a souhaité le président de la République, nous devons gagner du temps et aller plus vite.
C'est la raison pour laquelle les soignants de plus de 50 ans peuvent désormais également se faire vacciner. Ce sera aussi le cas des plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD à partir du 18 janvier. Des centres seront également ouverts pour préparer l'extension de la vaccination à l'ensemble de la population à partir du printemps. Mais Jean Castex a tout de même enjoint les plus impatients à modérer leurs ardeurs.
La vaccination est devenue la priorité numéro un de l'action du gouvernement. Nous sommes tous convaincus que c'est la vaccination la plus large, la plus massive et la plus rapide qui nous permettra de sortir de la crise. Ne confondons pas, néanmoins, vitesse et précipitation.
Il y a quoi qu'il arrive un rythme à respecter, a encore dit le Premier ministre, qui est celui de la production industrielle du vaccin. Et ce rythme devrait permettre de vacciner en France 1 million de personnes d'ici la fin du mois de janvier, selon l'objectif fixé hier soir.
Autre annonce hier, attendue et confirmée, la fermeture prolongée des lieux culturels au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Fermeture aussi jusqu'à la mi-février au mieux des bars et des restaurants. Et puis pour les salariés touchés par le Covid-19 ou cas contact, une simplification est avancée. Un arrêt maladie sans jour de carence, c'est-à-dire sans journée non payée. Il suffira de se signaler à partir de dimanche sur le site de l'assurance maladie. Une nouvelle qui s'applique au secteur public comme au secteur privé. Et qui est saluée par Mylène Jacquot, la secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
Dans la période, en fait, ça va permettre à des agents qui sont soit cas contact, soit malades, de vraiment respecter les mesures qui sont recommandées, c'est-à-dire faire le test et s'isoler. C'est donc une mesure qui va permettre de lutter plus efficacement contre l'épidémie et surtout sans pénaliser les agents qui seront touchés. Qu'il soit malade ou qu'il soit cas contact. Parce que ce qu'on observait et ce sur quoi on appelait l'attention du gouvernement et de l'ensemble des employeurs depuis maintenant plusieurs semaines, c'est que des collègues cas contact ou malades ne se déclaraient pas et continuaient d'aller travailler. Je pense notamment aux malades du Covid qui étaient asymptomatiques ou peu symptomatiques. Et donc, on avait un vrai risque de propagation et du coup, un risque qui concernait à la fois les collègues et aussi les usagers ou les clients pour le secteur privé.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. Pas de changement en revanche dans les écoles. Pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale n'envisage pas d'y renforcer le protocole sanitaire. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, se rendra cet après-midi dans les Landes. C'est le département le plus touché en France par la grippe aviaire. 119 foyers recensés sur les 124 en France. Ce chiffre a doublé en une semaine. Il y a 25 ans, très exactement, François Mitterrand s'éteignait à Paris à l'âge de 79 ans. Emmanuel Macron va lui rendre hommage en fin de matinée tout à l'heure à Jarnac en Charente. Le chef de l'État devrait se recueillir devant le caveau familial avant de visiter sa maison natale. Quel héritage de François Mitterrand ? Sophie Delpont a posé la question pour France Culture à Mathias Bernard. Il est professeur d'histoire contemporaine, auteur de l'ouvrage « Les années Mitterrand, du changement socialiste au tournant libéral ». Voici donc sa réponse.
La première mesure, c'est l'abolition de la peine de mort, qui était effectivement, dès septembre 1981, l'un des premiers gestes politiques de son premier septennat. C'est une décision forte sur laquelle aucune majorité suivante n'est revenue. Tout ce qui relève, on va dire, du champ des libertés publiques, les radios libres, je dirais, la fin aussi du monopole d'État sur la télévision, etc. Enfin bon, notamment donc dans le secteur des communications, mais plus largement dans le secteur des libertés publiques aussi, la dépénalisation de l'homosexualité également. Puis, je crois que le troisième héritage important de François Mitterrand encore aujourd'hui, c'est bien sûr la relance de la construction européenne. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les deux septennats de François Mitterrand, avec la signature de l'acte unique européen en 85, puis avec le traité de Maastricht, évidemment, en 92. C'est vraiment sous ces deux septennats qu'a émergé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est plus simplement une communauté économique européenne, mais qui est quand même effectivement un espace commun et partagé.
Et pour revenir sur les années Mitterrand, l'un de ses anciens ministres, Paul Quilès, sera l'invité du journal de midi et demi aujourd'hui sur France Culture. Une pénalité de 2,5 milliards de dollars. Voici ce qu'a accepté de payer Boeing. C'est le résultat de deux années d'enquête sur les deux accidents du 737 MAX qui, en 2018 et en 2019, ont provoqué la mort de 346 personnes. Hier, donc, pour la première fois, le constructeur a dû reconnaître qu'il avait délibérément trompé le régulateur américain sur les risques que son appareil faisait courir à tous ceux qui l'empruntaient. Explication de Pierre-Yves Dugas.
Voilà deux ans que Boeing fait l'objet d'investigations non seulement de la part du département de la justice, mais aussi de la part du département des transports et de plusieurs commissions du Congrès. L'avionneur est gravement mis en cause pour la manière dont il a conçu le 737 MAX, en minimisant les risques de certains choix techniques en vue d'obtenir rapidement le feu vert du régulateur fédéral de l'aviation civile. Au terme de l'accord passé par Boeing avec le département de la justice, Boeing reconnaît ses manquements frauduleux, admet avoir trompé le régulateur sur la sécurité du 737 MAX. Boeing va verser près d'1,8 milliard de dollars à ses clients. Les compagnies aériennes affectées par le scandale rajoutent 500 millions pour un fonds d'aide aux 346 victimes des deux accidents et paye une amende de 244 millions de dollars au titre d'une sanction pénale.
C'était Pierre-Yves Dugas à New York pour France Culture. Donald Trump promet une transition sans accroc le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche face à Joe Biden et il condamne les violences au Capitole de la part de ses partisans. Changement de ton donc de la part du président alors que le chef de la police du Capitole annonce qu'il démissionne et que l'on apprend ce matin la mort d'un policier au Capitole qui avait été blessé le 6 janvier. D'ailleurs, on en sait un peu plus ce matin sur le profil des militants pro-Trump qui se sont introduits au Capitole. C'est ce que nous dira notre correspondant à Washington dans le journal de 7 heures. Direction à présent le Liban où une statue sème la discorde, celle du général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 à Bagdad par une frappe de drone américain. C'était l'architecte de l'influence iranienne dans la région en général et au Liban en particulier via le Hezbollah, un parti milice que certains Libanais rejettent aujourd'hui. Mais une statue à l'effigie de Soleimani a tout de même été inaugurée cette semaine à Beyrouth. Explication d'Aurélien Colli.
Le buste est en bronze, il fait 3 mètres de haut, il trône au milieu d'un carrefour qui relie une rue déjà rebaptisée rue Soleimani et une voie rapide qui porte depuis longtemps le nom du fondateur de la République islamique d'Iran, l'Ayatollah Khomeini. Pour la municipalité du quartier, fief du Hezbollah, aucune provocation, mais un simple hommage. Hommage à un homme considéré comme un héros de la résistance à Israël et à l'Amérique, un allié fidèle du Liban qui était même à Beyrouth en 2006 lors de la dernière guerre contre l'État hébreu pour organiser le soutien iranien au Hezbollah libanais. Mais dans un Liban en crise, où la situation économique, sociale et politique, où les influences étrangères aussi ravivent les tensions communautaires, ces hommages ont surtout déclenché la colère des opposants au Hezbollah. Des portraits du général iranien installés le long des routes ont été décrochés ou brûlés. Des chrétiens phalangistes ont manifesté. L'armée s'est même positionnée dans certains quartiers chauds. Colère aussi sur les réseaux sociaux, avec des mots dièses comme « Beyrouth est libre, l'Iran dehors » pour dénoncer l'occupation iranienne ou les tentatives d'altérer l'identité libanaise, réplique aussi des internautes pro-Hezbollah et pro-iraniens. Derrière leur mot dièse, Soleimani est l'un des nôtres.
C'était Aurélien Colli. La grisaille sera omniprésente en France métropolitaine ce vendredi avec des températures froides, moins 9 ce matin à Bourg-Saint-Maurice, 0 à Paris et La Rochelle, 4 degrés à Marseille. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées ce matin à 6h40, vous notez que parmi les nombreux journaux et retours d'expérience sur le confinement, les récits de rêves occupent une place importante. Des chercheurs ont même entrepris de les collecter pour les archiver.
Oui Clara, il s'agit d'Hervé Mazurel et d'Elisabeth Serin, l'historien des sensibilités et la psychanalyste qui observe que les rêves confinés, ils en ont recueilli plus de 400, révèlent clairement le lien profond que tissent les structures sociales et les structures psychiques. Un point de vue partagé par le sociologue Bernard Lahir, qui publie à la découverte La part rêvée, le deuxième volume de sa grande enquête sur le contenu social des rêves. Fruit de nombreux entretiens avec les rêveurs, le livre met en évidence la part de vérité de ces divagations nocturnes et une forme de lucidité. Notre conscience libérée de toute censure va plus directement au cœur des problèmes en exagérant les situations, explique-t-il dans l'Obs. Une dramatisation qui met en lumière la vérité de nos sentiments, car notre inconscient est capable de les discerner plus directement. Dans la vie éveillée, on peut se raconter des histoires, se bercer d'illusions, mais pendant le sommeil, toutes ces vérités perçues se libèrent. Reste le problème du déchiffrage et de l'interprétation des images ou de situations souvent énigmatiques. Là, le rôle des entretiens est essentiel, comme on peut le voir dans le livre, pour éclairer le contenu latent. Parmi les thèmes récurrents, la domination masculine, la violence parentale, la compétition scolaire, les affres vécues par les transfuges de classe, toutes sortes d'enjeux majeurs qui sous-tendent nos sociétés. Comprendre ces rêves est aussi une façon de congédier la fatalité, faire reculer le sentiment de culpabilité, réaliser que cette souffrance que vous croyez intime est le fruit de votre expérience, de votre rapport aux autres. Bernard Lahir ne conteste pas le rôle éminent et inaugural de la psychanalyse dans l'interprétation des rêves, l'importance du langage, matrice de représentation et d'image, mais l'omniprésence de la sexualité dans le schéma freudien lui semble réductrice et l'idée que nos désirs s'accomplissent de façon déguisée pendant le rêve pour ne pas heurter la censure morale dépassée, car s'il est un lieu où la censure est abolie, c'est bien celui du songe. Et contrairement à l'expression courante qui met le rêve du côté du plaisir, je rêve d'être riche, le rêveur passe ses nuits à tenter de régler des problèmes. Notre passé incorporé nous hante, il colonise notre vie nocturne sous des images très diverses. La Société d'ethnologie publie une collection consacrée à la nuit. Dernier volume en date, le livre de Michel Adam sur la nuit des Kikuyu du Kenya. Un deuxième monde, c'est son titre. Principal groupe bantou du pays, les Kikuyu ont été dans les années 1950 des acteurs majeurs de la rébellion anticoloniale. Agropasteurs sédentaires, ils sont aussi d'importants producteurs de thé et de café. Dans leur langue, le substantif nuit appartient à la classe des noms abstraits, au même titre que la lumière, l'amour, l'esprit, la magie. Les rêves sont souvent associés aux esprits des morts, c'est pourquoi la lutte contre les mauvais esprits représentait autrefois une activité nocturne. Au coucher du soleil, tous les habitants se rassemblaient, y compris les enfants. Un grand feu était allumé afin d'assurer la cuisson des moutons et des chèvres. À l'issue du festin, la femme la plus âgée prélevait une part de graisse d'un mouton et invoquait au nom du village la protection de Ngaï, la forme nocturne de l'être suprême, la lune. À noter que le même nom désigne sa forme diurne, le soleil. D'autres récits font état de batailles rangées contre les mauvais esprits, toujours nocturnes, et où tous, hommes, femmes, enfants, prennent part dans un grand vacarme. L'objectif étant de provoquer une forme d'amnésie collective dans une joyeuse catharsis. La nuit est aussi le moment d'activité importante, et la nuit sans limite mûrit toutes les audaces, inscrite en Antoinette Jaume au frontispice d'une nouvelle revue en forme de Dazibao consacrée au pouvoir subversif des inspirations nocturnes. La nuit, c'est son titre, prend la suite de la revue Noto animée par Alexandre Curnier. Au sommaire de cette première livraison, le temps suspendu des révolutions mondiales d'Alger à Hong Kong en passant par Beyrouth et Santiago, un grand entretien avec Ludivine Bantigny ou encore la lecture homérique de l'épisode d'Ulysse face au cyclope par Pierre Bergougnou, Mon nom est personne. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves et notre petite vie est entourée de sommeil, écrivait Shakespeare dans La Tempête. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et on ne rêve plus. Bonjour,
bonjour Jacques Gacon. Meunier, bonjour à tous.
C'est les enjeux internationaux aujourd'hui. Julie, cette question, au Burundi, peut-on croire au changement?
Oui, c'est l'hypothèse en tout cas de l'Union européenne qui s'est, il y a deux jours, je cite le communiqué, réjoui de la réciprocité dans le réchauffement des relations avec le Burundi. Bruxelles emboîte le pas au Conseil de sécurité des Nations Unies, lequel a tout simplement retiré le Burundi de son agenda, car le pays n'est plus considéré, disent ces institutions, comme un facteur de risque sur le continent africain. Pays de près de 12 millions d'habitants au sud du Rwanda et à l'est de la République démocratique du Congo, le Burundi a depuis juin dernier un nouveau président, car Pierre Nkurunziza est mort en juin et celui qui lui a succédé a promis de changer les pratiques du pouvoir. Plus d'arrestations arbitraires, plus d'enlèvements ni de meurtres, mais sur place, les opposants et ONG ont du mal à y croire. Bonjour Karina Terzakian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'IDHB, qui est l'initiative pour les droits humains au Burundi, qui se présente comme un projet indépendant visant à documenter l'évolution de la situation des droits humains au Burundi. Alors, qui est le nouveau président de ce pays? Qui est Évariste Ndayishimiye? En quoi la communauté internationale peut le trouver plus ouvert que son prédécesseur?
Alors, le nouveau président du Burundi, c'est quelqu'un qui a milité depuis longtemps au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, depuis les années 90. Donc à l'époque, le CNDD-FDD était un groupe armé, majoritairement Hutu, qui combattait le gouvernement de l'époque à majorité Tutsi. Et Évariste Ndayishimiye était donc combattant au sein du CNDD-FDD. Puis, quand le parti a formé un gouvernement en 2005, il a occupé différents postes de haut rang au sein de l'administration pendant plusieurs années. Et enfin, en 2016, il a été nommé secrétaire général du parti, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui a toujours été très, très fidèle au parti.
C'est quelqu'un qui a été très fidèle au parti, qui a été très fidèle aussi donc à celui qui était jusqu'à présent président, Pierre Nkurunziza, lequel après 15 ans de pouvoir, dont un troisième mandat imposé par la force, sa réélection avait déclenché une crise qui a fait au moins 1200 morts et déplacé plus de 400 000 personnes, est mort donc en juin. Dans les premières semaines qui ont suivi l'élection d'Évariste Ndayishimiye, il y a eu des signes d'espoir, des libérations, notamment d'opposants.
Il y a eu des signes d'espoir, mais malheureusement qui n'ont pas duré longtemps. Il y a vraiment des contradictions entre les discours du président, qui souligne toujours l'importance qu'il attache aux valeurs démocratiques, aux droits humains, et la réalité. Du jour au jour, les violations des droits humains continuent, et il y a une continuité très claire avec la période de Pierre Nkurunziza, surtout en ce qui concerne les restrictions à la liberté d'expression, et la répression politique. Je peux vous donner juste un exemple. En octobre, donc quelques mois après les élections, un ancien député de l'Assemblée nationale a été arrêté et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. C'était l'un des rares députés à avoir osé dénoncer des violations des droits humains à l'Assemblée nationale.
Et c'était tout juste une semaine après une émission publique de radio où le président avait fait des déclarations très rassurantes en disant « Nous avons dit au revoir au passé. Dans le passé, on savait que lorsqu'on est un fonctionnaire de l'État, on est important, on emprisonne comme on veut et ça, c'est fini », avait-il dit une semaine avant donc l'arrestation de ce député.
Oui, voilà. Donc, c'est typique de la situation aujourd'hui, c'est que il fait souvent de beaux discours, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Et bon, il ne faut pas oublier non plus que la période qui a précédé les élections qu'il a remportées a été caractérisée par de graves violences politiques. Pendant la période préélectorale, plusieurs membres du principal parti d'opposition ont été assassinés et des centaines de membres de ce parti ont été arrêtés et emprisonnés arbitrairement. Donc c'est dans ce contexte que Ndayishimiye a été élu président.
Et ce que vous écrivez dans le long rapport que vous publiez pour l'initiative pour les droits humains au Burundi, c'est que des membres de l'ancien régime sont toujours au pouvoir. Certains ont même été promus aux postes les plus élevés du nouveau gouvernement, dont le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Alors il y a quand même au Burundi quelques médias indépendants, et notamment un hebdomadaire, Iwaku, dont 4 journalistes ont été libérés fin décembre après 1 an et 2 mois de détention. Et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a salué à cette occasion un bon présage pour 2021. Je disais en introduction que l'Union européenne, la communauté internationale, comme on dit aujourd'hui, estime que le Burundi ne pose plus de problèmes sur le continent africain. Pourtant, ils ne peuvent pas ignorer que le nouveau gouvernement, le nouveau président représente la continuité de cet ancien régime. Alors pourquoi, d'après vous, Karina Terzakian, veulent-ils reprendre des relations avec le Burundi ?
Alors d'abord, je voudrais saluer la libération de ces 4 journalistes qui étaient emprisonnés de manière arbitraire depuis plus d'un an. Hein. Donc ça, c'est un geste positif de la part du président qui leur a accordé la grâce. Mais cela ne suffit pas du tout. Hein. Il faudra faire bien plus avant que le respect pour les droits fondamentaux au Burundi soit restauré. Hein. Malgré ces libérations, il y a des restrictions très très sévères sur la liberté des médias. C'est très triste d'ailleurs parce qu'il y a quelques années, avant 2015, le Burundi est un pays où il y avait quand même des médias indépendants, une société civile indépendante assez forte. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Donc la plupart des médias ont été muselés, fermés ou chassés du pays. Alors sur le plan international, en 2015, donc la plupart des gouvernements avaient suspendu l'aide à la coopération directe au Burundi à cause justement de ces violations graves des droits humains. Ils avaient également imposé des sanctions contre certaines autorités et ces mesures restent en place aujourd'hui. Mais il semble que certains gouvernements européens sont prêts à tourner la page et à vouloir reprendre la coopération ou du moins le dialogue avec le gouvernement burundais. Donc, bon, le dialogue, c'est une bonne chose, bien sûr. Hein. Ça peut fournir un cadre pour discuter de réformes et pour encourager des mesures positives. Mais avant de lever ces sanctions, les gouvernements devraient insister pour que les réformes soient concrètes et durables. Et ce que je crains, c'est que s'ils reprennent la coopération de façon prématurée, ça pourrait donner un signal très très négatif que les crimes peuvent être commis en toute impunité et que toutes ces mesures auront été inutiles.
Et l'opposition, qui pour la plupart est en exil, d'ailleurs vit en exil, elle avait boycotté des élections en 2010, le parti principal d'opposition, le Congrès national pour la liberté, est en déclin. Est-ce qu'elle a des attentes vis-à-vis de l'extérieur, de l'ONU, de l'Union européenne ?
Elle a des attentes, mais qui risquent d'être déçues, à mon avis, parce que la plupart des acteurs internationaux semblent prêts à mettre de côté ou à même à fermer les yeux sur ce qui s'est passé, hein, surtout concernant ce parti principal d'opposition, le CNL, qui aujourd'hui est très faible, même si jusqu'aux élections de mai 2020, Le CNL avait un soutien très important au niveau de la population avant les élections, rassemblait des foules importantes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement s'est lancé dans une campagne de répression très très violente et a utilisé la Ligue des jeunes du parti au pouvoir pour tuer, pour battre, pour arrêter les membres du CNL.
Ligue des jeunes.
Aujourd'hui,
ouais. Ligue des jeunes,
qui grand chose.
Ligue des jeunes, à qui le nouveau président, en arrivant au pouvoir, a demandé d'arrêter les exactions, et tout s'est arrêté à ce moment-là. Signe, comme vous l'écrivez dans le rapport, que à quelle vitesse des améliorations peuvent être obtenues lorsque les ordres sont donnés par des hauts dirigeants du gouvernement et du parti. Pour conclure, Karina Terzakian, est-ce qu'on peut dire que le Burundi aujourd'hui a dépassé les questions ethniques? Il faut rappeler que des massacres de Tutsis par des Hutus y ont eu lieu en 93, donc l'année qui précédait le génocide rwandais. Le Burundi, au Burundi, on n'a pas parlé de génocide, on a parlé de guerre civile. Est-ce que le Burundi a pansé ses plaies?
Il y a eu en effet plusieurs décennies de violences interethniques très graves au Burundi, avec des divisions ethniques très, très profondes. Mais après l'accord de paix qui a marqué la fin de la guerre, je pense quand même que les Burundais ont réussi progressivement à dépasser ces divisions ethniques et à se tourner vers d'autres préoccupations. Depuis 2015 en particulier, hein, la situation s'est gravement détériorée, mais aujourd'hui, à mon avis, les principales divisions burundies sont des divisions politiques plutôt qu'ethniques. Par exemple, les principaux groupements politiques, le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition, sont tous les deux majoritairement hutus. Hein. Et pourtant, ce sont ces membres du CNL qui sont les principales victimes en ce moment. Alors, certains dirigeants tentent aujourd'hui de manipuler cette question ethnique d'une manière très dangereuse, d'ailleurs, pour s'attirer un plus grand soutien. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils n'ont pas réussi, car la grande majorité des Burundais ne sont pas prêts à retomber dans les horreurs du passé.
Merci beaucoup Karina Terzakian. Le rapport que vous avez publié avec vos collègues pour l'initiative des droits humains au Burundi, Mainmise sur l'avenir du Burundi, eh bien nous le mettons en ligne, en lien sur le site des Enjeux internationaux. Merci beaucoup, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Angels in America de Tony Kushner.
Événement Angels in America sur France Culture, New York, 1985. Chronique onirique et cinglante de l'Amérique des années Reagan, qui entrecroise les destins de jeunes New-Yorkais confrontés à l'apparition du sida. S'autorisant toutes les transgressions, Angels in America de Tony Kushner a fait date dans l'histoire théâtrale contemporaine et reste d'une implacable actualité. Une coproduction France Culture, la comédie française, avec la troupe du français, recréée pour la radio, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Bonjour mon collègue de travail.
Bonjour
Guillaume Herner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h57, c'est votre humeur du jour Guillaume. Et si l'on s'intéressait enfin aux souffrances des riches?
Eh ben oui, pourquoi pas, et notamment aux privations de ceux qui ont tout. Je veux parler de ceux qui vivaient sur une montagne de maïs. Alors le maïs, je le dis pour les déshérités qui nous écoutent, ce sont ces points qu'accordent les compagnies aériennes pour récompenser les frequent travelers, ceux qui voyagent beaucoup. Une invention que j'ai toujours trouvée vertigineuse, plus que les limousines rallongées ou le caviar à la louche. Songez-y un instant, Julie. Le maïs consiste à donner plus à ceux qui ont déjà tout, autrement dit à offrir des voyages gratuits à ceux qui peuvent de toute façon se les payer, un peu comme si on offrait des diamants aux gros contribuables. Le maïs permet de récompenser les privilégiés. Vous savez, c'est vieux comme les évangiles de Saint Matthieu, mais moins catholique. Hein. Saint Matthieu expliquait qu'à ceux qui ont tout, tout sera donné au surplus. Bon, on n'a jamais très bien compris pourquoi, mais les compagnies aériennes l'ont fait. Et comme l'inégalité qualité et ce qui sauve le capitalisme, le maïs a fait des émules. Même les magasins pour pauvres ont imité les compagnies aériennes. Par exemple, à chaque fois que je vais dans mon Intermarché préféré, on propose de collectionner les vignettes Geneviève Letu, lesquelles vont me permettre au bout de quelques siècles de m'offrir une des ménagère tasses. Complète. Mmh. Voilà, des tasses, mais pas que des assiettes aussi. Bon, on revient à nos maïs, Julie. Une belle invention qui répond, selon l'un de ses inventeurs, à cette pulsion mystérieuse chez l'être humain selon laquelle les gens sont prêts à dépenser n'importe quelle somme pour obtenir des voyages gratuits. Mais voilà, ce bel édifice aujourd'hui est mortellement touché. La bête Apico a eu raison de tout, des restaurants gastronomiques comme du Rat du Coin, mais aussi, elle a surtout mis un terme au voyage en avion. Maman ou papa est en voyage d'affaires, c'était hier. Du coup, il arrive un phénomène absolument étrange au maïs. Il n'est pratiquement plus possible d'en gagner, il est encore plus difficile d'en dépenser. Le maïs est devenu aussi utile qu'une carte American Express au milieu d'une forêt de Romoise ou du Cap de Bonne-Espérance, vous choisirez. Ça signe peut-être votre pouvoir d'achat, mais vous n'allez rien pouvoir acheter avec. Normalement, si le capitalisme était logique avec lui-même, il confierait ses millions de maïs aux pauvres, ça les changerait. Eux n'ont pas l'habitude de crouler sous ce qui ne sert à rien.